J'ai l'impression que je vais être un peu provocateur, là, après ce que nous a dit Pierre-Yves. Hein? Tu veux... Parce que Pierre-Yves nous a, finalement, dans sa première partie, nous a beaucoup parlé de Jésus, et de la croix de Jésus, et de ce Jésus, fils de Dieu, sauveur, dont la croix nous sauve. Et moi, je pose la question, Jésus est mort pour nos péchés, nous le croyons, est-ce que ça suffit pour nous sauver? Alors, à vous de répondre, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut s'en saisir, dit quelqu'un. Il faut le vivre, oui? Pas d'autre réponse. Il faut être né de nouveau. Bon, je me chatouille ce machin, je vais l'enlever. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus ça me chatouille. Voilà. Hop. Alors écoutez, on va continuer. Jésus a accompli ce qu'on appelle, alors c'est un peu un langage de théologien, mais vous allez tout de suite comprendre, ce qu'on appelle l'œuvre objective de salut. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre objective de salut? C'est l'œuvre qui est accomplie en dehors de nous comme sujet. Si on parle d'œuvre objective, on parlera tout à l'heure d'œuvre subjective. L'œuvre objective, c'est Jésus qui l'a accomplie et elle est indispensable. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut se passer de la croix de Jésus-Christ, bien sûr. Elle est indispensable. Pourquoi est-ce qu'elle est indispensable? Parce que la croix de Jésus a annulé notre condamnation. Galates 3, 13, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Parce qu'il a expié nos péchés. 1 Jean 4, 10, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser sa colère contre nous en souffrant pour nos péchés. Il a racheté nos fautes. Pierre nous dit, vous savez à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce n'est pas au moyen de choses périssables comme de l'argent ou de l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux de Christ. Et puis il a remporté la victoire sur le mal et sur Satan. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a porté notre condition et il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage toute leur vie par la peur de la mort. Il a donc permis la justification. Nous sommes donc justifiés. Et qu'est-ce que ça veut dire justifier? Justifier, ça veut dire déclarer quelqu'un juste. C'est un acte juridique, on peut dire. C'est, on peut donner une autre définition, c'est transformer un pécheur en pécheur pardonné. Vous êtes d'accord avec ça? Oui? Ah, vous verrez que ça pose quand même quelques problèmes, ça. C'est que si on est pécheur pardonné, c'est bien. Mais on est pécheur. On n'est pas saint. Nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on a accompli les œuvres que commande la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclaré juste par la foi non parce que nous aurions accompli ce que ordonne la loi. Ça, c'est la justification. Et puis, les pécheurs pardonnés, Romains 4, 7, qui cite d'ailleurs un psaume de David, « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés, heureux l'homme au compte de qui Dieu ne porte pas le péché. » L'œuvre de Christ est donc valable pour les hommes et pour les femmes de tous les pays, de toutes les époques. Est-ce qu'il faut en déduire que tous les hommes et toutes les femmes seront sauvés? La croix de Jésus justifie les hommes, mais cela suffit-il à les sauver? Quelqu'un a dit, c'est toi Martine, qu'il fallait se saisir, c'est ça? Je crois que c'est le mot que tu as employé. Il faut se saisir du salut, il faut se l'approprier, ce salut. Vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui avait marqué dans le journal « J'offre un chèque de 1000 euros à tous ceux qui viendront le chercher. » Alors, il y avait deux sortes de gens dans la ville. Il y a ceux qui ont cru et qui se sont déplacés, qui ont fait l'effort, qui sont allés chercher le chèque. Puis ceux qui ont dit « C'est des blagues. » C'est de la pub. Je ne vais pas me déplacer pour si peu. Et qui ne sont pas allés le chercher. Eh bien, c'est un peu ça, l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est offerte à tous, mais encore faut-il s'en saisir. Mais comment peut-on s'en saisir? N'est-ce pas le rôle de la foi? La foi, c'est croire. Qu'est-ce qui nous permet de croire? Parce que dire que la foi nous permet de nous saisir du salut de Jésus-Christ pose deux questions. Comment fait-on pour croire? Et est-il suffisant de croire? Alors avoir la foi, c'est le rôle du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé de Jésus tout à l'heure, à juste titre. À juste titre, c'est lui que nous adorons comme Fils de Dieu Sauveur. Mais n'oublions pas le rôle du Saint-Esprit. Paul dit aux Romains, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors, qu'a fait le Saint-Esprit pour nous permettre de croire? Alors, on appelle son œuvre subjective parce qu'elle dépend de chacun de nous. Elle dépend du sujet que nous sommes. Comment fait le Saint-Esprit pour nous permettre de croire? Oh, il agit en plusieurs étapes et il agit depuis longtemps. Il agit depuis longtemps puisqu'il a préparé l'œuvre de Jésus. En préparant tout ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, les prophéties, tout ce qui annonçait la venue de Jésus, mais même encore plus que ça, tout ce qui va nous permettre de comprendre que la venue de Jésus était nécessaire. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la venue de Jésus était nécessaire? En comprenant ce que c'est que le bien, que le mal, en comprenant que Dieu existe, en comprenant qu'il a tout créé, en comprenant que ce Dieu nous demande des comptes. Qui nous a fait connaître tout cela? Oh, bien sûr, c'est la Bible, l'Ancien Testament, l'Écriture. Mais qui a écrit cet Ancien Testament, si ce n'est les prophètes et les rédacteurs inspirés par le Saint-Esprit? C'est ce que Paul explique à Timothée. Reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures, quand Paul parle à Timothée, il parle de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'est pas encore écrit. Enfin, il est en train de l'écrire. Tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Dans « inspiré », vous retrouvez le mot « esprit ». C'est le souffle de Dieu, c'est le même mot en grec, le souffle et l'esprit, pneuma, hein, qui est venu écrire par l'intermédiaire des hommes la parole de Dieu. Et puis ensuite, une fois qu'il a préparé, j'allais dire, le terrain à l'extérieur, il va préparer le terrain à l'intérieur de nous. Comment comprenons-nous que nous avons besoin d'être sauvés? Sinon, parce que l'Esprit nous le dit. Et c'est ce que Jésus va expliquer à ses disciples en disant, quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Si nous avons dans notre cœur, un jour, dit « Mais c'est vrai Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour mes fautes. » Mais qui nous a mis cette idée dans le cœur, si ce n'est le Saint-Esprit? Dieu lui-même parlant en nous par son Esprit. Et de cette façon, il fait naître, puis grandir, le croyant en lui permettant de comprendre les Écritures. On reverra un petit peu ce point tout à l'heure. Il fait déjà naître le croyant. Vous êtes né à une vie nouvelle, dit la première épître de Pierre, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. C'est exactement comme si Dieu avait repris la création arrêtée au sixième jour et qu'il reprenne sa création en créant en nous une vie nouvelle qui est permise par Jésus. C'est celui-là. Deuxième question. Donc, première, c'était comment faisons-nous pour avoir la foi? La réponse, c'est nous avons la foi grâce au Saint-Esprit qui parle en nous, qui a préparé le terrain, qui a travaillé dans nos cœurs et qui nous permet de naître à une vie nouvelle. Mais est-il suffisant d'être pardonné pour entrer en présence du Dieu Saint? Quand j'étais ado, je réfléchissais à ce que serait mon épouse. Et je la voulais parfaite. De ce côté-là, je n'ai pas été déçu. Mais ce n'était pas du tout l'avis d'un de mes amis qui me disait, tu sais, les hommes cherchent l'éléphant blanc. Ils cherchent l'éléphant blanc partout, ils le cherchent, et ils ne le trouvent pas. Alors qu'est-ce qu'ils font un jour? Ben, ils en prennent un gris, ils le peignent en blanc. Est-ce que Dieu a fait pareil pour nous? Est-ce que nous sommes les éléphants gris repeints en blanc? Et est-ce que ça suffit pour entrer dans le ciel? Est-ce que nous sommes toujours des pécheurs pardonnés? Mes pécheurs? Et est-ce que Dieu se contente de cela? Alors, certains textes pourraient nous faire penser à ça. Hein. Le vainqueur portera des vêtements blancs, dit Apocalypse 3. Galates 3 nous dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà, comme une chemise. Bon, on n'a pas regardé si on avait pris une douche avant, on nous a mis une chemise propre. Et pourtant, Galates nous dit, les fruits de l'ancienne nature, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Éphésiens 5. Aucun impudique, impur, cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Hébreux 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est peut-être pas si simple finalement de se dire je crois donc je serai revêtu de blanc et admis dans la présence de Dieu. Premier épître de Pierre, verset 1er. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que dit l'Écriture, soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Donc, pour rentrer en présence de Dieu, il nous faudra pas seulement être justifié, déclaré juste, repeint en blanc, mais il nous faudra être réellement saint, réellement sans péché. Or, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous ne le sommes pas. En tout cas, pas au début de notre vie chrétienne, peut-être un peu plus tard, et encore. Enfin, espérons quand même, n'est-ce pas fait vivre. Eh bien, je vous propose qu'il y a là encore une œuvre de l'Esprit et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet aux croyants de progresser vers la sainteté. On a vu qu'il le faisait naître, et ensuite, après l'avoir fait naître, il le fait grandir. Il lui donne aussi une compréhension nouvelle en lui permettant de connaître Dieu et de le comprendre. Premier épître aux Corinthiens, vers chapitre 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et puis ce passage de l'Épître aux Éphésiens, qui est une prière, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez. » Et quel est le désir de l'Esprit ? C'est de venir habiter dans notre cœur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, dit Paul aux Corinthiens. Et l'Esprit de Dieu qui habite dans notre cœur nous donne ses dons et son fruit. Les dons, il y a plusieurs listes, sagesse, connaissance, prophétie, guérison, soutien. Et le fruit de l'Esprit. Vous vous rappelez, on en avait parlé du fruit de l'Esprit. Vous devez presque savoir par cœur. Moi, il faut quand même que je les lise. Amour, joie, paix, patience, amabilité, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. En nous doit s'épanouir le fruit de l'Esprit. On doit voir ça en nous. Si ça n'y est pas, est-ce que l'Esprit de Dieu habite réellement en nous? Alors on appelle ce processus-là la progression vers la sainteté, ou la Bible appelle ça la sanctification, c'est le mot un peu technique. Comment faire pour obtenir cette sanctification? En écoutant Pierre-Yves tout à l'heure, je repensais à ce passage, Éphésiens 5, verset 8. qui dit « marcher comme des enfants de lumière ». Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alors, comment faire ? Ne pas s'opposer à l'Esprit en nous. C'est un impératif. Qu'est-ce que c'est que la sanctification, la progression dans la sainteté ? C'est laisser agir le Saint-Esprit, collaborer avec lui, ne pas s'engager dans un chemin inverse. Alors la Bible emploie des expressions comme rechercher la sainteté. Pardon, c'est pas bon. Rechercher la sainteté. Fuir les convoitises du mal. S'efforcer de faire la volonté de Dieu. Faire tous vos efforts. Se détourner. Tous ces verbes nous montrent que ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose qui va aller tout seul. C'est quelque chose qui va nous demander une collaboration avec le Saint-Esprit. Et par contre, on peut s'opposer à lui. Et il y a des passages dans la Bible qui nous disent qu'on peut mentir à l'Esprit, qu'on peut le tenter, l'Esprit du Seigneur, qu'on peut l'attrister, qu'on peut l'outrager. Et nous voyons là le rôle qui est important, le rôle du Saint-Esprit, qu'on a parfois tendance à oublier et à donc se focaliser sur l'œuvre de Jésus. L'œuvre de l'Esprit est importante. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On comprend un peu, c'est une parenthèse, mais si vous voulez réfléchir un peu à ça, pourquoi Jésus insiste tant en disant que celui qui péchera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. C'est le seul péché qu'il ne sera pas pardonné, dit Jésus. Et pourquoi ? Tout simplement parce que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il se barre lui-même le chemin du salut, puisqu'il empêche Dieu de le sauver. Il empêche le Saint-Esprit de faire son œuvre en lui, de susciter la foi et de progresser vers la sainteté. Alors, soyons réalistes, la sanctification sans doute nous perfectionne, mais est-ce qu'elle fait de nous des saints à 100%? Heureusement, Dieu a prévu un plan de secours. C'est la transformation finale. C'est ce que Paul explique aux Corinthiens. Alors, c'était pas si évident que ça à comprendre, puisqu'il leur dit « je vous dis un mystère ». Alors, je vous mets dans la confidence. On va partager le mystère que Paul dit. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est-à-dire lorsque Jésus va revenir. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, il parle dans la mesure où il y aura des gens vivants à cette époque, et nous, nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés. Ça veut dire que l'homme, la femme que nous serons au moment où Jésus reviendra et qui va ressusciter, ou l'homme et la femme que nous serons lorsque Jésus reviendra et qui sera toujours vivant, à ce moment-là, va être transformé. Nous ne serons pas les mêmes et Dieu nous donnera la sainteté qui nous manque. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut dire, puisque Dieu nous transformera à la fin, ce n'est pas la peine de faire des efforts, c'est lui qui va tout faire. Ce n'est pas du tout ce que dit Paul. Ainsi, mes bien-aimés, c'est le même passage, c'est la suite, 1 Corinthiens 15, « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Même si le Seigneur doit nous transformer à la fin, notre travail, ce que nous aurons fait avant, les efforts que nous aurons fait de collaboration avec le Saint-Esprit, ne sera pas perdu. Ainsi donc, nous serons changés en des êtres parfaits, purs, saints, immortels, présentables devant Dieu. Nous ne serons plus simplement des pécheurs pardonnés, mais des saints. Alors en conclusion, ça a l'air compliqué, mais prenez pas peur. Dans notre salut, chaque personne de la Trinité, chaque composante de la richesse divine joue son rôle. Notre salut est l'œuvre ensemble des trois personnes de la Trinité. Le Père a envoyé le Fils. Le Père a envoyé le Fils. Le Fils est venu réaliser l'œuvre de la croix, absolument irremplaçable. Une fois cette œuvre réalisée, le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit pour les croyants. Que fait le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit rend témoignage au Père, il rend témoignage au Fils, il a inspiré les Écritures, il a convaincu notre cœur, il nous fait grandir, et finalement, après avoir grandi, c'est quand même le Père qui nous sauve et qui nous transforme. Et nous ? Quelle est notre part là-dedans? C'est surtout de ne pas mettre d'obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur, de nous laisser transformer, modeler, de prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre façon de vivre et de dire « Oui, Seigneur, je veux être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas me contenter de dire « Eh ben oui, Jésus est mort pour moi, super, merci Seigneur, je te dois rien. » Non, bon, d'accord. Non, c'est pas comme ça que ça se danse. Jésus est mort pour nous, c'est sûr. Mais c'est pour nous ouvrir à une vie nouvelle, à une vie de victoire avec lui, de transformation et de sainteté. Je vous propose un petit moment de recueillement. Seigneur, tu veux près de toi, pour l'éternité, des hommes et des femmes saints, parfaits. Tu ne veux pas te contenter de personnes revêtues de blanc et pleines de taches en dessous, mais tu veux vraiment nous faire évoluer vers la perfection et nous donner cette perfection. Et Seigneur, pour notre salut, tu as envoyé ton Fils. Et nous te remercions, nous te remercions encore pour l'envoi de Jésus. Mais tu as aussi envoyé ton Esprit. Et quand Jésus est parti, il nous a dit, je ne vous laisse pas seul. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, a-t-il dit à ses disciples. Et nous comprenons que c'est par son Esprit qu'il est avec nous. Et que c'est son Esprit qui nous permet de comprendre, qui nous permet d'adhérer, qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous transformer, qui nous permet d'être meilleurs. Seigneur, merci pour l'envoi de l'Esprit. Permets-nous de ne pas mettre d'obstacles. Permets-nous de désirer cette croissance, de désirer de grandir. Permets-nous de nous laisser transformer. Permets-nous aussi de ne pas être ingrat, et de savoir remercier aussi l'Esprit pour ce rôle qu'il joue en nous. Et un jour, Seigneur, nous serons vraiment tout près de toi et nous pourrons jouir de ta présence. Et à ce moment-là, nous n'aurons plus de tâches à cacher. plus de péché à essayer de te cacher plus ou moins. Tout sera révélé, tout sera effacé, tout sera changé. Et Seigneur, nous pourrons profiter pleinement de ton amour. Déjà, nous t'en remercions.